Et bonjour, Moutassem Amour avec vous, bienvenue à ce premier épisode de la rentrée 2016. J'espère que votre rentrée se passe au mieux. Si vous avez des enfants, j'espère aussi que leur rentrée se passe bien. C'est donc le premier épisode de septembre, du mois de septembre 2016, et aujourd'hui, on va découvrir comment faire pour bien choisir votre coussin de méditation. Quels sont les critères à considérer lorsqu'on veut acheter un zafou, lorsqu'on veut acheter un coussin pour bien s'installer dessus et pour méditer. Donc on va découvrir cela dans cet épisode aujourd'hui. Avant cela, deux petites news. Tout d'abord, la première information, c'est que donc, c'est la rentrée et je vais reprendre des épisodes plus réguliers. Donc, vous avez remarqué peut-être que l'été, il y avait moins de publications, c'était plus sporadique. Je publie à peu près deux fois par mois. Donc là, on va reprendre une publication par semaine. J'ai de nombreux experts, auteurs, thérapeutes qui sont prévus pour les interviews. Donc, j'ai plein de bonnes choses qui se préparent pour vous à travers ce podcast. Et comme d'habitude, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à m'envoyer un email à pratiquer la méditation sur le blog. Deuxième information. Alors, si vous êtes un professionnel du bien-être, vous êtes peut-être un thérapeute, il se peut que vous soyez un enseignant ou une enseignante de yoga, peut-être que vous avez une boutique qui vendait des produits axés sur le bien-être. Donc si vous travaillez dans le domaine du bien-être, j'ai besoin de votre aide car je suis actuellement en train de travailler sur la création d'une plateforme qui va avoir pour but d'aider les professionnels du bien-être à communiquer leurs passions avec intégrité et efficacité pour vraiment pouvoir vivre de leur art, pour pouvoir développer leur activité. Et cette communication va se faire principalement en utilisant les outils que nous offre Internet. Donc si vous êtes un professionnel du bien-être, il y a un questionnaire avec 5 petites questions auxquelles j'aimerais beaucoup que vous répondiez. Pour découvrir ce questionnaire, il vous suffit d'aller sur le blog, donc pratiquer trait d'union méditation.com, et vous verrez tout en haut une petite case où vous pouvez cliquer et qui vous amènera sur ce questionnaire. Et donc merci d'avance de jeter un coup d'œil. Et si jamais vous écoutez ce podcast dans le futur, bien après septembre 2016, et que vous êtes un professionnel de la santé, un professionnel du bien-être, écrivez-moi, comme ça je vous informerai de cette plateforme qui sera désormais en marche et qui devrait également vous intéresser. Alors aujourd'hui donc on va découvrir dans ce podcast qui est une interview comment faire pour choisir votre coussin de méditation. Alors il se peut qu'aujourd'hui vous ne méditiez pas encore, mais je suis sûr que comme beaucoup vous avez le pressenti que la position immobile du corps, c'est une voie d'accès à une méditation profonde. Donc on a tous vu un jour l'image d'une personne qui était dans une position assise parfaite, on la voit les jambes bien croisées, près du corps, assise sur un coussin en train de méditer. Donc on peut alors deviner la sensation de calme et de paix, rien qu'en regardant l'allure du corps qui est droit, qui est immobile, et on peut même voir le visage qui est détendu, qui est presque souriant. Et ensuite, vous avez peut-être fait cette expérience, il suffit qu'à notre tour, on essaie de s'installer sur un coussin de méditation qui est posé au sol. Donc, pour réaliser que maintenir une posture droite, tout en gardant le corps et l'esprit relâchés, ce n'est pas toujours évident. Donc, certains d'entre vous, et ça je le sais parce que je reçois de nombreux emails de votre part, lorsque vous installez pour méditer, vous ressentez une tension dans le bas du dos. D'autres ressentent une raideur dans les genoux, dans les hanches, d'autres encore une sensation de brûlure dans les omoplates. Donc c'est ce qu'a vécu Christian qui aujourd'hui est mon invité. Donc Christian, il a été très vite confronté à son manque de souplesse lorsqu'il a essayé de s'installer à même le sol pour méditer. Il a essayé d'adapter son assise, il a ajouté plusieurs coussins, il a essayé de l'adapter à sa grande taille et à son manque de flexibilité. Et suite à cette expérience, il a décidé d'essayer de créer un coussin qui était adapté à sa morphologie et à sa souplesse. De cela est né un projet, le projet de proposer des coussins sur mesure qui vont vraiment être adaptés à la morphologie à la souplesse et au goût de chacun. Donc dans cet entretien, Christian va nous expliquer ce que l'on doit considérer lorsqu'on choisit son coussin. Et si vous voulez acheter un coussin de méditation, cet épisode est pour vous. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Et bonjour, Moutassem, amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Et aujourd'hui, on va voir comment faire pour choisir son coussin de méditation. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Christian. Christian qui est créateur de Zafu, qui sont des coussins de méditation. Et on va découvrir avec Christian comment faire pour choisir votre coussin par rapport à votre morphologie et par rapport à d'autres critères. Donc tout d'abord, Christian, merci de participer à ce podcast.
Merci de m'accueillir, Moutassem, bonjour.
Et donc avant de rentrer dans le sujet, donc avant de donner des conseils sur comment choisir son coussin de méditation, est-ce que toi tu peux nous expliquer comment tu as découvert la méditation? Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler sur ce projet, sur la création de coussins?
En fait, moi j'ai découvert la méditation comme beaucoup de monde, je pense, au travers de livres. J'ai démarré il y a plusieurs années déjà. Et puis j'ai eu plusieurs périodes, et ça je pense que c'est assez courant aussi, où j'ai été très assidu, ça me faisait beaucoup de bien, et puis ça retombait, et je méditais plus, etc. Et puis un jour, il y a deux ans, je me suis rapproché d'un centre de méditation, enfin qui est un centre spirituel bouddhiste à côté de Bordeaux, qui s'appelle le Village des Pruniers, où j'ai fait une retraite pendant une semaine.
Qui est le village de Thich Nhat Hanh, hein, c'est bien ça?
Oui, c'est tout à fait. C'est le village de Thich Nhat Hanh, hein, que j'ai eu la chance de voir parce qu'il a eu un accident vasculaire cérébral et il est aujourd'hui malheureusement malade, mais j'ai eu la chance de le rencontrer. Et voilà. Et là, j'ai senti autre chose qu'on va qualifier, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas une dimension spirituelle. Et un sens à la méditation qui me manquait probablement et qui fait que depuis je médite avec une vision et avec une approche en tout cas où je ne fonctionne pas par objectif ou en disant il faut que je médite 30 minutes par jour ce que je faisais avant. J'essaye vraiment de me l'appliquer au quotidien, d'être présent, parce qu'en fait la méditation c'est finalement surtout ça, c'est d'être présent en pleine conscience, de respirer, et ça c'est tout ce que j'ai appris là-bas. Et puis j'y ai rencontré des gens absolument merveilleux au passage, et notamment les moines et les sœurs qui sont sur place.
Donc je t'interromps un instant. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait de la différence? Donc, tu disais que tu méditais depuis un certain temps déjà, et le fait d'avoir été immersé dans ce cadre, quelle a été l'expérience supplémentaire ou différente que tu as vécue qui a fait que tu as changé ton point de vue sur la méditation et que tu as approfondi ta pratique?
Alors d'abord, il y a une atmosphère dans ce lieu qui est très particulière. Une émotion vraiment présente, forte, c'est très difficile à expliquer. Alors en plus, moi je suis quelqu'un de très cartésien, donc j'avais un peu peur des sectes et de tout ça. J'ai rencontré en fait des gens réellement bienveillants. Et puis ensuite, il y a un apprentissage qui se fait surtout pendant une semaine autour de la pleine conscience, par exemple, où tout au long de la journée, il y a des cloches qui sonnent. Et quand une cloche sonne, on s'arrête le temps qu'elle sonne et on se concentre, on se recentre sur soi-même, sur sa respiration et sur le présent. Et en fait, ça, j'utilise depuis cette retraite, j'utilise toujours ça, j'ai une application sur mon téléphone qui sonne de façon aléatoire. Et c'est fou parce que même après plusieurs années de pratique de méditation, je me rends compte que mes pensées se sont éloignées, que je suis plus vraiment complètement présent, et ça me ramène à ça. Donc ça m'a donné à la fois des outils comme ça et puis une richesse de fond. Enfin, je me dis que si j'arrive un jour, ne serait-ce qu'à la cheville de la gentillesse et du partage des gens que j'ai rencontrés là-bas, la méditation m'aura beaucoup fait avancer.
D'accord, donc une véritable source d'inspiration. Ouais. Et l'application, tu t'en souviens du nom de l'application que tu utilises pour avoir les...
C'est Lotus Bud.
Lotus Bud.
Bud, je crois que c'est Bud. Attends, je peux le vérifier tout de suite.
Voilà, comme ça, je le noterai aussi sous le podcast pour les personnes
Lotus qui s'intéressent.
Oui. Lotus Bud, très bien. Très bien. Et donc, après cette expérience, après cette semaine passée au village des pruniers, tu as approfondi ta pratique. Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as décidé de vouloir... Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer des coussins de méditation, des afous?
Alors, en fait, c'est un besoin tout à fait personnel. On crée pas que des afous, on crée aussi des coussins, enfin, ce qu'on appelle des rondeaux et d'autres types de coussins. Partout dans le commerce et dans les centres de méditation ou dans les salles de yoga, les coussins qui sont mis à disposition sont toujours un peu les mêmes. Donc, effectivement, il y a beaucoup de zafous et puis beaucoup de coussins qui sont assez bas. Et quand on fait attention, moi, ça va mieux maintenant, mais je suis grand, je suis pas souple du tout. Et donc, au bout d'un quart d'heure de méditation assis sur un zafou, j'avais mal partout. Et c'est évidemment pas idéal pour méditer. Donc, la chaise qui est conseillée dans ces cas-là, je trouve que ça fait 5 minutes, mais ça ne me convenait pas non plus. J'avais envie de m'asseoir. Et puis en plus, quand on est dans un centre de méditation, les chaises, c'est tout bête, mais les chaises sont derrière.
C'est vrai.
Les coussins sont devant. Et si on veut vraiment être dans l'ambiance, dans l'atmosphère, on est mieux devant que derrière. Je me suis dit, ok, donc on voit, et c'était mon cas. Des gens qui bricolent, c'est-à-dire qu'on rajoute deux coussins l'un sur l'autre, on les fait se tenir un peu en biais pour obtenir la bonne hauteur. Et j'ai tout bêtement cherché des coussins de hauteurs différentes et je trouvais pas. Donc je me suis dit, puisque ça n'existe pas, ça doit pas être très compliqué à faire. Donc j'ai réalisé moi-même, pour le coup, mon premier coussin de méditation qui était pas très bien fini. Les coutures ont lâché assez vite, mais en l'occurrence, il était parfaitement à ma taille. Et puis, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, je me suis rendu compte que ça pouvait aussi avoir un intérêt de régler la largeur du coussin, puisqu'on est tous de morphologie différente, donc il y a des gens qui prennent plus ou moins de place. C'est valable aussi dans l'autre sens. Il y a des gens plus petits, plus minces qui sont pas à l'aise avec un coussin qui leur paraît trop gros, dans le cas du zafou, ou trop grand. Et puis j'ai vu également qu'on pouvait jouer, enfin que le choix de la matière qui remplissait le coussin était très important pour l'assise. Le zafou en général est rempli avec du capoc, donc une sorte de coton. Et en fait, moi, j'ai le coussin que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois est un coussin rempli avec des balles d'épeautre, donc c'est sont comme des céréales, quoi, des graines évidemment biologiques. Et ça, moi, ça me convient vraiment parfaitement parce que ça épouse parfaitement mon corps, ça me permet d'avoir le dos droit. Et la combinaison et de la hauteur et du contenant fait qu'aujourd'hui, je peux rester des heures sans avoir mal et sans être passé par des cours de stretching pour m'asseoir.
Oui, c'est vrai que comme tu dis, c'est quelque chose qui peut sembler tout à fait logique. On a tous des morphologies différentes, des tailles différentes, des poids différents. Et effectivement, en général, dans les centres de méditation ou dans le commerce, la plupart des coussins de méditation se ressemblent avec une taille standard. Et c'est vrai que la position est importante. La position peut rendre la méditation agréable ou elle peut la rendre extrêmement difficile. Et surtout que la plupart d'entre nous, la plupart des Occidentaux, on n'a pas l'habitude d'être au sol. Moi qui ai voyagé en Inde, là-bas, dès le plus jeune âge, à l'école, chez eux, tout le monde est assis au sol, les jambes croisées, donc ils ont une flexibilité, une souplesse au niveau des hanches, du bassin, que nous, on n'a simplement pas. Et pour transitionner, donc pour s'habituer à cette position sur le sol, c'est vrai qu'autant avoir un support qui nous convienne. Et je pense que ce que tu as pu observer, c'est peut-être que la plupart, il n'y a pas suffisamment de hauteur, très souvent, et ce n'est pas suffisamment de support. C'est oui. ce que j'ai pu observer souvent dans les groupes de méditation.
Pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est effectivement, c'est vraiment ça. Et ça change beaucoup de choses. Enfin, moi, ça, ça, je ne vais pas dire que ça a changé ma vie, mais en tout cas, ça a changé ma vie de méditation, ça, c'est clair. Et les copains, évidemment, parce que mes premiers clients sont avant tout des copains, des amis et des relations, tous sont hyper satisfaits de ça, quoi, de pouvoir trouver un coussin qu'ils peuvent vraiment personnaliser. À la fois en hauteur, en largeur et en choisissant le contenu. Sur le site qui commercialise ces coussins, qui est abalokita.net, j'explique, hein, il y a un guide en ligne qui explique comment choisir son coussin en fonction de sa taille, de sa morphologie et puis de son niveau de souplesse, puisque c'est ça va aussi quelqu'un qui fait du yoga, enfin comme tu disais, un Indien qui est habitué à être assis par terre, ou quelqu'un qui fait du yoga depuis qu'il est enfant, va choisir probablement un autre contenant, une autre matière, une taille plus basse de coussin que quelqu'un qui est moins souple.
Oui, et c'est vrai que quand j'ai découvert ton site, c'est ce qui m'a interpellé, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est qu'il y a des indications très précises sur comment faire pour choisir son coussin, et si tu veux, on va rentrer un peu plus en détail dedans. Et donc le site, c'est Avalokita, donc on pourra parler aussi du sens de ce nom, qui est peu commun, que je mettrai aussi sous ce podcast. Alors comment faire pour choisir son coussin? Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple? Donc je ne sais pas si... Alors, choisir son coussin, je l'ouvre ici et on peut le regarder ensemble. Alors, il y a trois critères, hein, que tu prends en compte. La souplesse.
La taille.
La taille. Et ensuite, la fermeté choisie. Hein.
Tout à fait.
Alors, on va donner un exemple. Donc, si par exemple, une personne mesure entre 1m65 et 1m70.
Alors, la taille de la personne est liée à sa souplesse. Hein. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, la première question à se poser, c'est est-ce que je suis souple, moyennement souple ou pas très souple? Parce que je peux mesurer 1m75,
oui.
Être une femme, donc plutôt grande. Si je suis très souple, je vais prendre un coussin plutôt bas, enfin bas par rapport à ma taille, mais si je ne suis pas souple, à l'inverse, il va me falloir un coussin plus haut. Donc c'est vraiment le premier critère déterminant, c'est celui de la souplesse.
D'accord, c'est vrai.
Exactement. Donc en fait, il faut rentrer par le... Donc si on prend un autre exemple,
on va dire par exemple quelqu'un qui est moyennement souple, parce que je pense qu'il y a beaucoup des auditeurs qui seront moyennement souples, surtout au niveau des femmes. Et là, c'est vrai que la taille entre 1,65 et moins de 1,65
Alors moins de 1,65 on va lui recommander un coussin de 14 cm de hauteur, donc le zafou traditionnel, hein, c'est à dire qu'elle va compenser sa souplesse moyenne par sa taille, c'est à dire que alors après c'est plus fin que ça, mais en général ce qui crée les douleurs au dos, c'est le fait que les genoux touchent le sol en faisant un effort ou pas. Donc si mes genoux touchent le sol sans effort, ce qui est le cas d'une femme de moins d'1 mètre 65, même si elle est moyennement souple, on peut prendre un coussin bas. À l'inverse, moi qui mesure 1 mètre 87, si je prends un coussin de 14 cm, mes genoux ne vont pas toucher le sol, je vais avoir mal. Donc il va me falloir un coussin plus haut.
D'accord. Donc voilà, le mieux c'est que je recommande à tous les auditeurs d'aller sur ton site, donc Avalokita, et tout simplement choisir son coussin. Comme ça vous pourrez choisir donc votre souplesse, la largeur qui correspond et aussi la fermeté. Donc comment on fait pour choisir la fermeté? C'est par rapport au ressenti?
Oui, la fermeté, en fait il faut se référer à son canapé. Je recommande toujours ça. Donc son canapé ou son fauteuil, enfin ce qu'on a choisi pour s'asseoir chez soi. Et si on est plutôt à l'aise sur des assises fermes, on va plutôt sélectionner des balles de sarrasin. Et si on est plutôt à l'aise sur des assises moelleuses, on va plutôt choisir du capoc. Voilà, à une nuance près, mais j'explique aussi ça, tout ça sur le site, que l'avantage des céréales, donc des balles d'épeautre ou de sarrasin, c'est que vraiment elles épousent le corps. Et donc même si c'est un peu plus souple, ça maintient dans la durée plus longtemps qu'un coussin qui est un peu plus moelleux.
D'accord. Alors quel autre conseil tu pourrais donner à une personne qui veut choisir un coussin ? Donc on a vu, voilà, donc comme tu disais, plus la personne est petite et moins elle aura besoin d'hauteur, surtout si elle est souple. Si elle a moins de souplesse, donc on va monter en hauteur. Plus la personne est grande, plus elle va avoir besoin de hauteur. Et là aussi, la souplesse va déterminer plus ou moins la hauteur. Et donc là, tout ça, c'est très bien expliqué sur le site. On a vu la fermeté. Quelles peuvent être les choses à considérer pour choisir un coussin sur lequel on sera bien ?
Alors, sur lequel on sera bien, je dis souvent que qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire que, en fait, le coussin, il est constitué d'une enveloppe en tissu et de contenant. Si la personne hésite entre deux tailles, il vaut mieux qu'elle prenne la taille au-dessus, quitte à ensuite vider un peu. Hein, c'est facile d'accès, en fait, l'intérieur du coussin, donc quitte à ensuite vider un peu de matière pour le rabaisser, parce qu'évidemment, c'est plus dur de le faire dans l'autre sens.
D'accord.
Voilà. Et puis ça permet vraiment ça permet vraiment du coup d'ajuster son coussin. Et puis quand on le reçoit, on l'essaye et puis en réglant comme ça avec le contenu, normalement on arrive à trouver la position qui nous convient. Un point important, alors, je sais pas, parce que ça c'est un discours vraiment commercial, donc je sais pas si tu veux que je l'évoque, mais si tu veux le garder, on est dans une création qui est une création toujours sur mesure. Donc on n'est pas tenu par la loi dont j'ai oublié le nom sur l'e-commerce qui oblige à envoyer sous 14 jours des lettres de rétractation normales. Maintenant, on n'est évidemment pas du tout dans cette logique-là. Donc nous, on envoie les coussins et si vraiment ça ne convient pas, on les reprend et on rembourse sans discuter.
D'accord, très bien. Donc ça aussi, c'est bon à savoir. Et donc, d'où Aval Lokita ? Donc là, je suis curieux, d'où est venu ce nom ?
Aval Lokita, en fait, c'est un champ au village des Pruniers. C'est un champ que j'ai mis sur le site, enfin qui me parle beaucoup, qui, je sais pas pourquoi. Hein, les paroles ne signifient strictement rien. Donc j'ai demandé, c'est pas du sanskrit, il y a aucun sens.
Juste des sonorités.
Voilà, juste des sonorités, mais voilà. Et puis donc le nom exact, c'est Avalokiteshvara, mais ça faisait un peu long pour un nom de site internet, et le raccourci commun, c'est Avalokita. C'est également le nom de l'être éveillé juste après le Bouddha dans la hiérarchie, si je puis dire, bouddhiste. Alors, qui prend plusieurs formes, enfin comme souvent chez les Asiatiques, c'est des concepts qui sont assez éloignés des nôtres et parfois difficiles à comprendre. Pour faire court, c'est l'équivalent de la Vierge Marie chez les Taïwanais, je crois, et c'est l'équivalent de personnalité divine au Japon, en Corée, et au Vietnam.
D'accord, très bien. Donc c'est bien que tout le projet a une couleur spirituelle qui, voilà, c'est pas seulement une vente de produits, il y a une histoire derrière, une envie de partager une expérience. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tu travailles avec des associations, donc les personnes ont le choix d'allouer une certaine partie du prix vers une association, donc notamment surtout le village des Pruniers ou d'autres associations s'ils le souhaitent. Donc là aussi, ça a été un choix dès le départ de vouloir partager une partie des revenus avec des associations.
En fait, le projet, c'est pas uniquement de créer un commerce. C'est vraiment de de monter quelque chose d'éthique, d'équitable. Et à terme, si jamais ça se développait, de créer une entreprise sociale et solidaire avec le statut d'entreprise sociale et solidaire et avec tout ce que ça implique derrière. Donc, on utilise des matériaux uniquement éthiques et biologiques, c'est-à-dire que les cotons qu'on utilise sont certifiés comme ayant été fabriqués dans des conditions qui sont des conditions humaines, on va dire. C'est un label indépendant allemand, c'est le seul label aujourd'hui qui est reconnu. En tout cas au niveau européen, on utilise pour les céréales des produits qui sont bio. On fait travailler pour l'instant une couturière, mais qu'on rémunère correctement. Comme tu le disais, on s'est dit on crée de la richesse, on crée de la valeur, comme on dit dans le marketing. J'ai envie qu'une partie de cette richesse soit redistribuée. Donc ce qu'on propose systématiquement, c'est de dire 10% du chiffre d'affaires qui est du montant de l'achat de chaque client est reversé par défaut au village des pruniers. Mais le client peut décider de le reverser à une autre association parmi celles qu'on a identifiées qui nous paraissent pertinentes et qu'on a indiquées sur notre site. Si le client fait le choix d'une autre association, il suffit qu'il nous le dise et on reverse 10% à cette autre association avec certaines conditions, que ce soit une association vraiment à but social caritatif. Et puis enfin, s'il veut se faire un cadeau à lui-même, il peut tout à fait utiliser un code qui cette fois n'est plus un code don mais un code promo et bénéficier de la réduction à ce moment-là des 10%. Et puis, on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, si l'entreprise réalise un bénéfice, on redistribuera une partie des bénéfices, là également, à des associations.
D'accord. Alors, ce qui m'a intrigué aussi, c'est le choix des tissus utilisés. C'est très original et c'est peu commun. Ça a été un choix de faire quelque chose de différent que...
Oui, parce que dans le même ordre d'idées, on a un choix très restreint en taille et en personnalisation sur la taille et sur le contenu. Je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de choix en coloris et en tissu. Hein, les coussins sont tous orange, mauve. De temps en temps avec un peu de tissu rayé, on retrouve finalement toujours la même chose. Alors c'est au village des pruniers, c'est très joli, très esthétique d'avoir tous ces coussins prunes dans les salles de méditation. Chez soi, son coussin de méditation, on a deux possibilités, soit on range dans un placard une fois qu'on a fini de méditer, soit on peut avoir envie de le laisser sur son canapé ou un autre endroit de la maison, et là il faut que c'est mieux quand les couleurs puissent s'assortir à sa déco intérieure. Et puis l'autre point, c'est que tous les goûts sont dans la nature, et que je trouvais sympa de proposer des tissus qui changent un peu, et on a un choix assez large puisqu'on doit avoir pour l'instant une trentaine voire une quarantaine de tissus proposés.
D'accord, ouais. Oui, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir choisir sa monture, donc une monture qui nous ressemble, et tout ce qui peut aider est un plus. Donc si on est Si le coussin nous ressemble et qu'il y a un autre goût, ça peut être qu'un plus dans la pratique d'une personne. Donc c'est intéressant et c'est à explorer aussi. Très bien. Alors est-ce que tu aimerais, donc là on arrive à la fin de cet entretien, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose par rapport à ton projet, un message que tu aimerais partager avec les auditeurs de ce podcast?
Non, rien de particulier. Je pense qu'on a fait, le tour. C'est, en fait, moi, j'ai un parcours où j'ai créé des entreprises. Je suis en train d'en créer une en parallèle, mais toujours dans des logiques très commerciales. Et ce projet-là, c'est un projet que je conduis pas du tout comme ça, que je monte par plaisir. à côté de ce que de mes activités et voilà, et j'espère c'est mon projet de c'est le projet qui est associé à ma pratique de méditation, c'est-à-dire que je n'en attends rien et je travaille au présent dessus quand ça se présente.
En tout cas, ouais, merci pour ce beau projet, et merci d'avoir partagé avec nous et d'avoir donné des conseils sur comment choisir un coussin de méditation. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ton site pour que les gens puissent le visiter ?
Oui, alors c'est Avalokita, Avalokita.net.
Très bien, donc je mettrai aussi le lien sous ce podcast. Et si vous avez des questions pour Christian, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et Christian, je t'invite à venir voir ce qui se passe sous cet épisode et à participer à la discussion. Encore merci pour ta participation et bon courage et bonne chance dans ton très beau projet. À bientôt.
Merci, Otacien.